Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline.
Hello à tous, ici Pauline Léniaud et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Tous les lundis, j'y interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter les clés de leur succès. Le mercredi, vous le savez maintenant, je réponds aux questions des auditeurs sur des thèmes comme l'entrepreneuriat, le business, le marketing, les réseaux sociaux, le développement personnel, le sport, la productivité et j'en passe. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de répondre aux questions de Claire. Claire travaille dans un grand groupe et souhaite lancer un projet d'intrapreneuriat. J'étais hyper contente de répondre à ces questions parce que vous êtes assez nombreux, d'après ce que je comprends, à être aussi dans ce cas de figure et j'avais pas eu l'occasion encore d'avoir des invités de ce type sur le podcast. Bref, avec Claire, on a discuté de la meilleure manière pour procéder, comment bien s'entourer, déléguer, mais on a aussi parlé d'organisation personnelle, notamment quand on a, comme elle, une vie familiale et professionnelle bien remplie. Si, comme Claire, vous souhaitez aussi participer, contactez-moi sur Instagram à mon pseudo Pelignau, P-L-A-I-G-N-A-U, en m'écrivant vos questions. Et comme à chaque fois, vous le savez maintenant, vous en avez marre, mais je vais le dire quand même, vos feedbacks compte énormément, vos petites notes sur iTunes comptent énormément, ça fait une vraie grosse différence et ça me motive sincèrement pour continuer à vous fournir tous ces contenus de qualité. Allez go, trêve de bavardage, on passe à la leçon numéro 2 du gratin. Salut Claire, bienvenue sur le podcast.
Bonjour Pauline.
Bah écoute, merci d'avoir accepté donc de témoigner dans la leçon. Est-ce que tu peux me donner ta question ?
Oui, bien sûr. Alors, ma première question, c'est un sujet que tu as évoqué dans ton podcast à plusieurs reprises, c'est l'équilibre entre la vie personnelle, la vie professionnelle et savoir concilier les deux, à la fois quand on est entrepreneur comme toi, et moi, de mon côté, je suis salariée, donc voilà, c'est un petit peu différent, mais je pense qu'il y a des similitudes.
Ah bah c'est clair, c'est juste justement, toi, pour me donner un peu de contexte, aujourd'hui, t'es salarié, tu travailles beaucoup.
Alors, je travaille, on va dire, raisonnablement, parce que j'ai un petit garçon et que du coup, j'essaye de me dégager du temps pour m'occuper de lui. Donc, c'est que le soir, je ne pars pas après 18h du boulot.
D'accord. Et tu arrives à avoir, en plus de ça, des activités, on va dire, hors activités de famille et de travail, style sport, je ne sais pas, culture, ou c'est compliqué justement de tout gérer?
Non, écoute, moi, ce que je fais, c'est que je fais du sport le midi.
D'accord, c'est pas mal déjà.
J'utilise le temps du midi pour faire du sport, pour écouter des podcasts, des choses comme ça. Et puis le week-end, moi j'ai la chance d'avoir un petit garçon qui fait des bonnes siestes. je lis beaucoup
pratique.
Quand il fait ses siestes.
Génial. Bah écoute, je sais pas si je suis la meilleure personne pour te répondre parce que moi je travaille avec mon mari comme tout le monde sait et que du coup j'ai vraiment mis tous les œufs dans le même panier, donc l'équilibre est pas enfin il existe mais il est pas le plus simple à trouver. Ce qui est certain, c'est que je pense que pour tenir dans la durée quand on travaille beaucoup, ce qui semble être ton cas, et notamment quand on a en plus une famille à gérer, il faut que tu arrives à trouver, si tu veux, des moments pour toi. Ça me paraît évident, et donc si c'est pour ça aussi que je te posais cette question, si tu arrivais à faire du sport ou avoir ces moments un peu de culture. Pour moi, c'est évident qu'aujourd'hui, on est dans une situation de société où très souvent, voilà, on est dans la performance un peu en permanence et on est surtout dans la volonté de vouloir toujours faire mieux, toujours progresser, ce qui est très bien et moi, je veux toujours progresser. Mais je trouve qu'on perd parfois un peu de vue le fait qu'il faut réussir à trouver aussi des moments juste de calme pour soi où on fait des choses par plaisir. Moi, par exemple, ça a été le sport. Toi, j'ai l'impression que c'est le cas aussi. Mais où tu vois, tu vas pas être juste responsable de ton fils, même si je suis sûre que tu passes évidemment de merveilleux moments avec lui, mais où finalement, tu es quand même dans un rôle de maman où tu dois t'occuper de lui, ni dans un rôle de salarié, de personne qui travaille, où tu dois rendre des comptes, etc. Donc je pense que ces moments-là où tu es seul, ou avec des amis, mais où tu vas vraiment prendre soin de toi. C'est des moments qui sont extrêmement précieux et je pense que c'est super que tu les fasses, que ce soit via le podcast, là, le running, enfin peu importe. C'est vraiment un conseil que je peux donner. Moi, pendant très longtemps, je ne l'ai pas fait. Et franchement, le problème, c'est qu'ensuite, tu relèves la tête et tu dis, non mais ma vie, elle passe à 200 à l'heure et je n'ai pas l'impression en fait de la vivre pour moi-même, quoi. Je la vis que pour les autres. Donc je pense que c'est hyper important d'avoir ces moments-là. Et j'aime une image que je donne assez souvent, c'est que pour prendre soin des autres, il faut déjà prendre soin de ça. C'est un peu comme, tu sais, dans les avions, tu as toujours le visuel en fait de la maman qui met d'abord son casque à oxygène et ensuite elle va le mettre sur ses enfants. Bah, moi, je suis convaincue que pour bien s'occuper des autres et bien partager et bien donner, en fait, il faut déjà être bien soi-même. Donc pour moi, déjà, la base, c'est de prendre ce temps pour toi. Est-ce que tu en prends suffisamment? Je ne sais pas. Ça, c'est à toi de me dire. Peut-être que si tu me poses la question, c'est qu'a priori, tu as l'impression que tu es peut-être un peu en difficulté. Donc, je ne sais pas. En fait, pourquoi tu me poses cette question finalement? Parce que j'ai l'impression que tu as quand même réussi à trouver un équilibre.
Bah, en fait, c'était pour échanger là-dessus et d'avoir ton point de vue de toi qui est entrepreneur. Parce que c'est vrai que moi qui suis salariée, j'ai le confort de pouvoir finalement, je sors de mon boulot, il est terminé.
Ouais.
Enfin, surtout dans le travail.
Est-ce que tu envisages de lancer ta boîte?
Pardon?
Tu envisages de lancer ta boîte?
J'envisage de faire un genre de projet d'intrapreneur dans mon
D'accord.
entreprise.
D'accord, génial.
Donc du coup, c'est aussi pour ça que je te posais cette question-là, parce que ce projet est assez important, va me demander pas mal de temps et d'engagement, et donc de libérer du temps.
Oui, bien sûr.
Donc voilà, et du coup, il va falloir que je m'organise un peu différemment de ce que je fais maintenant pour lancer ce projet, et que c'est un projet que je ferai en plus de mon job.
Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ce que je peux te dire, pour le faire, donc t'as compris que j'ai une boîte, deux podcasts, un mari, je fais du sport, donc moi je suis assez occupée, mais je pense que déjà l'énergie appelle l'énergie, ça c'est quelque chose que je dis souvent. Donc si c'est des choses que t'aimes, que t'as vraiment envie de faire, tu vas trouver le temps, tu vas t'organiser. Ce que je sais aussi, et qu'il faut dire, et il faut être clair là-dessus, c'est que dans la vie, on ne peut pas tout avoir, et que tu ne vas pas pouvoir dormir aussi longtemps, faire du sport, avoir tes moments pour toi, t'occuper de la même manière de ton fils, et travailler autant sur ta boîte, si jamais tu as un projet en plus. C'est évident, il y a quelque chose dans l'équation, si tu veux, qui ne va pas fonctionner. C'est évident. Donc après, pour moi, ce qui est important, c'est juste de le déterminer en amont, et pas de se faire surprendre, pas de se faire embarquer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passionnées par ce qu'ils font, et qui ont envie de se lancer dans de nouveaux projets, c'est très bien. Mais qui du coup, si tu veux, prennent pas vraiment l'initiative de se dire ok, qu'est-ce qu'il faut que je laisse tomber pour pouvoir me consacrer à ça, et qui n'ont pas la présence d'esprit de se rendre compte qu'on ne peut pas tout avoir et qu'il faut faire ses choix. C'est quelque chose que je dis assez souvent. Donc en l'occurrence, je sais pas toi, qu'est-ce que tu vas devoir peut-être faire un peu moins, peut-être que c'est typiquement ces moments personnels dont on parlait, peut-être que c'est le sport, peut-être que c'est au niveau de ton travail qu'il faut que tu te rendes compte que tu vas moins peut-être être à fond sur ton travail quotidien et que tu vas devoir plus te dédier à celui-ci. Mais ce qui est certain, c'est que tu vas pas pouvoir avoir une équation constante. Moi, je te recommande pas personnellement de juste moins dormir. Tu peux le faire pendant une période, mais si tu veux que ça dure dans la durée, franchement, ne dormir 4 heures par nuit ou 5 heures par nuit ad vitam aeternam, enfin, il y a quelques personnes qui peuvent le faire, mais c'est un peu un mythe que tout le monde peut, enfin, que l'entrepreneur dort 4 heures par nuit. Non, c'est pas vrai. Il faut que tu sois en bonne santé, si tu veux, pour pouvoir être productive et efficace dans ton travail, dans ta vie émotionnelle, dans ta vie de famille. Donc, pour moi, la question, c'est combien de temps ce projet va te prendre en plus, et du coup, qu'est-ce que tu vas enlever, que tu apprennes à dire non, qui est peut-être moins de resto avec des potes, peut-être moins de moments de cinéma, je ne sais pas exactement ce que ça va être, mais je pense qu'il faut que tu visualises très clairement le fait que rajouter quelque chose en plus, forcément, soit ça déborde et c'est la merde et je te conseille pas, soit en fait t'enlèves un petit peu, si je prends une image, tu vois, d'une bouteille qu'on remplit, soit ça déborde si tu rajoutes quelque chose en plus, soit il faut que tu enlèves déjà un petit peu en amont quelque chose qui n'était pas forcément très intéressant ou qui n'est pas ta priorité actuellement. Et ça veut pas dire, et je tiens juste à le dire, ça veut pas du tout dire que tu pourras pas y revenir plus tard. Il y a des moments dans la vie, j'ai une amie qui m'a dit un jour, la vie ça n'est qu'une succession de parenthèses. Et je trouve ça assez intéressant comme phrase. C'est que peut-être que là, tu es une phase dans ta vie où tes priorités, c'est ton fils et c'est ce projet, par exemple. Et auquel cas, peut-être que ta vie amicale, elle est moins importante actuellement. Ça ne veut pas du tout dire que dans 5 ans, tu ne voudras pas, au contraire, passer beaucoup de temps te rapprocher de tes amis. Je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment que tu te dises que ça n'est pas... C'est évident, premièrement, qu'il faut que donc, tu fasses des trade-offs et que tu fasses des choix. Et deuxièmement, ces choix ne sont pas des choix qui sont indéfinis dans le temps. Évidemment, ça pourra changer. C'est juste à un moment donné, tes priorités, ce qui compte pour toi.
Ok.
Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
si, tout à fait. Mais c'est vrai que j'arrivais aussi à cette conclusion-là, que voilà, il y avait des choses qu'il fallait faire bouger.
Bon, après, au-delà de ça, évidemment, il y a de l'organisation, il y a essayer d'optimiser son temps au maximum, bien sûr, mais je pense aussi à l'inverse. Enfin, moi, j'ai rencontré pas mal de personnes, si tu veux, qui sont vraiment dans une optimisation de leur vie permanente avec un agenda où, limite, si tu veux, il y a le temps de douche qui est noté dans l'agenda. Je pense aussi que ça rend pas très heureux, si tu veux. Enfin, moi, je suis plutôt une personnalité où j'aime bien quand même laisser un peu de place à l'inattendu. Et donc, je pense que c'est plus des grands principes qui sont importants que d'essayer de micromanager ta vie toi-même. Parce que sinon, en fait, tu es en permanence dans le contrôle et ça peut être un petit peu fatigant. Après, sincèrement, tout le monde réagit d'une manière différente. Moi, je sais que ça me convient pas, mais il y a des personnes qui sont très heureuses d'avoir un cadre extrêmement clair où ils se posent pas de questions. C'est tous les jours, je fais telle ou telle chose avec pendant 15 minutes, etc. Ça ne veut pas dire en plus qu'il ne faut pas que tu aies un planning. Moi, par exemple, donc, comme on disait, j'ai pas mal d'activités. Par exemple, je me lève tous les jours à 6h45. Je sais que je fais de 6h45 à 7h que je prends mon petit déjeuner. Enfin, tu vois, j'ai quand même un planning qui est assez serré, mais il n'est pas non plus à la douche près, si tu veux. Enfin, j'essaye de faire en sorte de m'organiser. Et ça, c'est intéressant parce qu'à partir du moment où tu as tes principes qui sont clairs pour toi, que tu sais les choses sur lesquelles tu veux investir réellement, bah ensuite, tu n'as plus qu'à recréer, si tu veux, un cadre. C'est un peu comme un rétro-planning, franchement. Tu vas te dire, il faut que je fasse du sport parce que c'est important pour moi, bah, peut-être que c'est le week-end parce qu'en semaine, justement, je ne peux pas. Et donc, si tu veux, ça va te permettre de plugger ça. Moi, ce que je te conseille, j'avais déjà donné ce conseil dans le podcast, c'est vraiment de le noter dans ton agenda et d'en faire un peu des moments complètement indéboulonnables, parce que sinon tu peux être sûr que tu vas jamais t'y tenir, et ensuite c'est un peu un cercle négatif où tu vas commencer à abandonner une fois, et ensuite tu vas prendre du retard sur, enfin, tu vois, c'est un peu l'effet boule de neige où tu vas perdre énormément de temps, je pense, à essayer de rattraper ce que tu n'as pas fait. Donc autant essayer de le fixer vraiment en amont, et quand tu n'y arrives pas, c'est pas grave, tu passes à autre chose, mais par contre essayer au maximum de fixer tes grands principes et ensuite le décliner, sans rentrer trop dans le détail, mais quand même un minimum.
Ok. Après, il y avait un autre sujet que je voulais évoquer avec toi, et c'était pour rebondir sur un de tes derniers podcasts où on parlait un peu des chasseurs de papillons et de l'importance de l'ennui. Ouais. Je veux dire, pour moi, c'est hyper important d'avoir des moments où on peut s'ennuyer, et justement, l'idée de mon projet au sein de mon entreprise est venue parce que je m'ennuyais un peu. Mmh. Et du coup, je voulais savoir, toi, ce que tu pensais de ces périodes d'ennui, si toi tu arrivais à t'en octroyer aussi dans ta vie qui est bien remplie, comment toi tu ressentais cette part d'ennui dans le processus créatif de façon générale?
Bah alors, c'est une super bonne question. De l'ennui, j'en ai pas beaucoup actuellement. faut être clair, mais je pense que c'est, je me rappelle que c'était Augustin, je crois, de Michel Augustin qui disait ça, qui parlait des chasseurs de papillons. Ce qui est certain, c'est que je pense que des périodes de repos ou de prise de recul, ça c'est hyper important. Donc après, je dirais pas que c'est de l'ennui, mais moi par contre je fonctionne de la manière suivante, c'est qu'en général je vais être très très intense sur certaines périodes, et je vais prendre des vraies plages de vacances, en l'occurrence des vraies plages, si tu veux, de recul, de repos, des moments où tu, comme tu le dis, entre guillemets, je vais m'ennuyer, je vais lire, je vais essayer de aller vers l'extérieur, essayer de me challenger, et où je vais prendre vraiment du temps pour moi à ne rien faire, à juste faire du sport, à être dans mes pensées avec quelques amis, enfin, et ne pas être en permanence, si tu veux, dans l'effort, dans le travail, dans les activités, parce que finalement je trouve que s'occuper en permanence, c'est aussi ne pas savoir s'écouter, ne pas réfléchir, tout simplement. C'est un peu méditatif pour moi, ces états là Et donc, je le fais plus de manière assez intense, un peu comme des stages, on va dire, de self-help, où je vais prendre beaucoup de temps pour moi. Et donc, moi, en général, c'est pendant mes vacances. Là, tu vois, par exemple, dans 2 semaines, je pars une semaine en vacances. Et c'est des vacances qui sont très, très calmes, où je fais rien à part un peu de course à pied, de la lecture. Je dors beaucoup et je réfléchis. Et ça me fait un bien fou et ça me donne une énergie folle. Et je le fais plus comme ça. J'ai du mal, je dois dire, à le faire au milieu de la journée, parce que j'ai des journées qui sont très remplies et que j'aime bien ce rythme assez soutenu. Je crois beaucoup au travail, et c'est pas pour autant que donc l'ennui et le fait d'être, tu vois, de prendre du temps pour soi n'est pas important, mais moi je te dis, je suis assez de ce point de vue là dans la dichotomie, c'est à dire soit je suis à fond et je travaille comme une folle, soit je prends vraiment du temps pour moi. J'ai quand même un moment dans la journée que je prends pour moi, toujours au delà de la course à papier, que je fais 15-20 minutes de méditation tous les matins. Et ça, c'est vraiment un moment, pas forcément créatif, mais un moment de repos, un moment de prise de recul. Et donc ça me permet, je pense, aussi d'aborder la journée, si tu veux, de façon en ayant déjà fait ça. Et donc, en gros, je sais que j'ai pris ce moment pour moi. Ensuite, je peux y aller à fond et vraiment bosser à 200%.
D'accord.
Toi, tu...
un autre sujet.
Ouais, dis-moi.
Que je voulais aborder avec toi peut-être, c'est, tu en parlais dans le premier épisode des leçons du gratin, puisque moi le projet que je porte dans mon entreprise, pour le moment je le porte toute seule et je vais le présenter à mon DG, etc. pour le faire valider, mais donc je sais qu'après il faut que je trouve des personnes relais au sein de l'entreprise pour travailler avec moi sur le projet, pour ne pas le porter toute seule. Donc finalement ça revient un peu à quand on est entrepreneur à savoir s'associer.
Bien sûr.
Et comme ce projet je suis à l'origine, je pense que le principal défi pour moi, ça va être d'apprendre à déléguer et à partager ma vie
sur les
choses. Donc, toi qui, du coup, a monté ton entreprise avec ton mari, quel conseil tu pourrais me donner pour réussir à déléguer sur ce projet
Très simple.
Que ça se passe bien.
Très, très simple. Il faut que tu travailles avec des personnes que tu admires, que tu respectes et qui sont meilleures que toi dans un domaine. C'est évident. Si jamais tu ne t'entoures que de personnes qui seront, entre guillemets, je le dis de façon très négative, t'es larbin, mais qui sont des personnes que tu vois comme des exécutants de ta vision, tu vas jamais réussir à déléguer. C'est évident. Il faut que tu saches t'entourer de personnes que tu admires, en qui tu as confiance, qui ont leur propre vision aussi, et voilà, et qui sont, entre guillemets, un peu sur un pied d'égalité, en tout cas intellectuel avec toi, même si c'est toi qui portes le projet à la base, peu importe. Enfin, franchement, je pense que s'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que dans une boîte ou dans un projet, il faut vraiment pas mettre d'ego. Donc si cette personne est la meilleure que toi, mais tant mieux, ça veut dire qu'elle va pouvoir porter le projet plus loin. Et donc il faut que tu te poses la question, est-ce que ce qui compte pour moi, c'est que ce soit mon projet, ou est-ce que ce qui compte pour moi, c'est que ce projet marche, et est-ce que tu crois suffisamment au projet pour pouvoir avoir, entre guillemets, l'humilité de laisser d'autres personnes travailler dessus. J'ai l'impression, d'après ce que tu me dis, si tu poses la question en tout cas, c'est que ça t'intéresse d'avoir cette humilité. Et donc moi je te dis, le plus important en fait, c'est que tu saches t'entourer des bonnes personnes, et ces bonnes personnes, en fait, il faut tout simplement qu'elles soient meilleures que toi dans un domaine, que tu les admires dans un domaine. J'ai eu plein de personnes dans le podcast qui m'ont dit exactement ça, hein. Enfin, je pense par exemple à Victor Luger et à Tigran Seydoux de Big Mama. Bah, Victor, il va te dire, enfin, honnêtement, ce moment dans le podcast était assez mythique quand il se met à parler de son associé, mais tu sens à quel point il est admiratif de Tigran. C'est le cas aussi de Michel Augustin. Enfin, c'est vraiment des histoires, si tu veux, au-delà de l'amitié et au-delà du fait que ce soit des entrepreneurs, c'est des histoires où tu vas pouvoir vraiment donner ta confiance et surtout te rendre compte à quel point tu vas être complémentaire d'une autre personne qui va juste mieux faire que toi, avoir une meilleure vision que toi sur un domaine de ton entreprise. C'est pas parce que, ou de ton projet, c'est pas parce que tu as une vision globale que, je sais pas, une personne avec laquelle tu vas pouvoir travailler va pas avoir une vision dans l'exécution de la meilleure manière de procéder, si tu veux. Donc je pense que c'est vraiment très très important d'être assez humble là-dessus, de pas mettre d'ego et de savoir trouver une personne qui va réussir à te challenger et à donner autant que toi sur le projet. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question.
Oui, tout à fait.
Bon, il n'y a plus qu'à trouver cette personne maintenant, hein, c'est pas le plus simple. Mais, mais en tout cas, ce qui est sûr, là-dessus, mon expérience, je peux te le dire, c'est que, et d'ailleurs, ça vaut le coup tout autant pour des personnes qui s'associent que dans le cadre de ton projet, c'est que il y a des valeurs, évidemment, il y a tout un certain nombre de choses qui comptent quand on s'associe, mais je pense que ce point de la complémentarité, de la confiance et de l'admiration pour que la personne, en fait, puisse vraiment agir et ait autant les moyens que toi, si tu veux, d'agir sur le projet, c'est absolument clé et tu vas le savoir assez vite. Des personnes qui arrivent, si tu veux, et qui sont juste là, entre guillemets, pour exécuter ton projet, tu vas le sentir assez vite. Et franchement, le micromanagement dans le monde de l'entrepreneuriat, juste, ça ne fonctionne pas parce que tu vas avoir trop de travail. Et que ça soit dans l'entrepreneuriat ou dans l'intrapreneuriat, c'est la même chose. Si jamais vraiment tu veux faire décoller un projet, mais il faut que tu aies toutes les forces vives possible sur ce projet. Donc il faut que tu trouves des personnes qui sont aussi investies, aussi motivées que toi et qui apportent des choses différentes de toi. Il faut brasser large et du coup ça tu vas le sentir, je pense, assez rapidement quand tu vas commencer à discuter ou à travailler avec ces personnes. Des exemples concrets, c'est quand tu te mets à travailler avec ces personnes-là, assez rapidement, tu es étonné en fait par la qualité de ce qu'ils te proposent. Tu es étonné parce qu'ils te proposent des choses que tu n'aurais jamais fait toi-même. Et ça, c'est jackpot. Ça veut dire que cette personne-là, mais il faut absolument que tu bosses avec. Si au contraire, c'est que des personnes qui vont exécuter ce que tu vas leur dire de faire ou jamais te challenger, c'est très bien. Mais du coup, a priori, le projet ne va pas avancer aussi vite, tout simplement.
Tout à fait. Je suis bien d'accord.
Voilà.
Et le dernier sujet qu'on a en commun, puisqu'on est, je pense qu'on est toutes les deux hypocagneuses, cagneuses et hypocagneuses, c'est la partie littéraire. Mm-hmm. Donc tu parles souvent des livres dans ton podcast, c'est des livres que les personnes recommandent. Et donc toi, c'est vrai que j'avais écouté dans le podcast réel d'Estelle Abou tes conseils en matière de livres. Mm-hmm. Est-ce que tu as d'autres
voilà, j'en ai plein
en tête?
J'en ai plein, tu sais que j'ai un peu le rêve secret de créer un book club en plus pour Gémio, où en gros une fois par mois je pense que je comme ça me forcerait à lire, en plus je lirais et je pense qu'on pourrait échanger, partager sur plein de livres à lire. Honnêtement, des livres qui m'ont marqué, j'en ai énormément. Là, en ce moment, je suis en train de lire un livre qui est pas mal du tout, qui est pas hyper accessible, mais qui est plutôt sympa, qui est un livre d'un auteur américain qui s'appelle Stephen Pinker, qui s'appelle How the Mind Works. J'ai bientôt sur le podcast des invités qui vont être des neurobiologistes, et du coup, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est processus de prise de décision, comme tu sais, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe réellement dans le cerveau quand on prend des décisions, enfin à tout moment. J'ai parlé récemment aussi dans la newsletter d'un livre que je recommande vivement à toutes les personnes qui s'intéressent au sommeil, qui s'appelle en français « Pourquoi nous dormons ?» d'un aussi neurobiologiste qui s'appelle Matthew Walker et qui est absolument génial parce que très accessible, passionnant, mais vraiment hyper simple à lire pour les non-scientifiques. Et quand tu y penses, c'est quand même assez fascinant de se dire qu'on passe 30% de notre temps à faire quelque chose où on ne sait même pas ce qui se passe dans notre tête à ce moment-là, et même dans notre corps. Donc je trouvais que c'était très intéressant de comprendre à quoi sert le sommeil, et je pense que beaucoup de gens seront assez étonnés en fait de tout l'intérêt que ça comporte. Donc typiquement, ça va à l'encontre de l'idée qu'il faut dormir 4 heures par nuit, assez clairement. Donc ça, c'est des livres un peu, on va dire, de non-fiction. Et dans les livres de fiction, franchement, j'en ai énormément qui me plaisent beaucoup. Qu'est-ce que je peux te dire, c'est jamais facile ces questions parce que j'en ai plein qui me viennent en tête. Moi, je suis très quand même livre littéraire, très littéraire français. Donc j'ai été bercée toute mon enfance par des Balzac. Alors ça paraît très chiant aux gens qui nous écoutent, mais j'avoue que j'ai quand même un faible pour les Balzac, pour les Trois Mousquetaires, pour tous ces livres-là un peu d'aventure que je trouve absolument formidables et que je relis régulièrement. J'en avais parlé d'ailleurs dans un épisode du podcast où j'avais reparlé, je crois, du Père Goriot et des Trois Mousquetaires. Et c'est vrai que je continue à insister sur le fait que si vous ne les avez pas lus et que cet été, vous cherchez des livres à lire, mais franchement, les Trois Mousquetaires et 20 ans après, mais vous allez passer un moment juste incroyable. C'est vraiment de la très grande littérature et juste, c'est mieux qu'une série Netflix, quoi. C'est mieux que Game of Thrones. Enfin, franchement, il y a des rebondissements dans tous les sens. C'est vraiment assez mythique. Donc voilà, il faut que je fasse le travail, si tu veux, de... C'est marrant parce que comme c'est moi qui pose la question à mes invités, j'ai jamais vraiment pris le temps d'y réfléchir. Mais il faut que je fasse le travail justement de réfléchir un peu à quels sont mes livres de chevet. Et comme ça, je pourrais vous les dévoiler de façon un petit peu plus structurée.
Super.
Bon, bah merci en tout cas Claire pour tes questions. J'espère que ça t'a aidé. Je mettrai dans les notes de l'épisode, si tu l'acceptes, ton contact, si des personnes veulent échanger avec toi. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Et puis, je te dis à bientôt.
Oui, à bientôt.
Un grand, grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Si oui, dites-le moi bien évidemment avec 5 étoiles ou même un petit commentaire sur iTunes. Sinon, c'est pas grave, vous pouvez aussi me le dire en commentaire sur iTunes, je le prendrai pas mal, ça m'aide toujours. Mais mieux que ça, vous pouvez me faire votre feedback en direct sur mon compte Instagram Pelenio. Ça m'aide encore plus à vous proposer les contenus qui vous plaisent. Donc allez-y, n'hésitez pas. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps et pour votre attention. N'hésitez pas à postuler sur la leçon si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse. C'est à vous de jouer. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine leçon du gratin.